Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes par Mao Chaudoué-Delmas et Luna Gué-Padoan. Ce podcast, en 9 épisodes, documente ce qui se joue autour des femmes aujourd'hui avec la crise du Covid, elles qui ont été à la fois les plus actives, les plus exposées et les plus ignorées depuis un an. Épisode 5. Femme soignante. L'hôpital est un lieu de misogynie systémique, déclarait dans une tribune du Monde Anna Boctor et Lamia Kardjana, deux médecins soutenus par plus de 300 professionnels de santé. On apprend dans ce même texte qu'une femme médecin sur trois serait victime de discrimination liée à sa grossesse. Les femmes médecins en congé maternité ne sont pas remplacées. 6% d'entre elles ne prennent pas ou écourtent leur congé à cause de la pression. 15% ont été victimes de situations de harcèlement ou d'humiliation sexuelle en milieu hospitalier. Autant de femmes susceptibles de se détourner du soin, selon Lila Bouadma, réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris. La professeure Bouadma nous offre un témoignage sur ce mauvais traitement des soignantes, aggravé selon elle depuis un an. Elle, qui a soigné les premiers patients Covid, commence par décrire les leviers de domination et de discrimination à l'œuvre dans le milieu hospitalier, notamment au sein du conseil scientifique Covid-19 dont elle fait partie.
La seule question que j'ai posée ou qui a été posée, parce que les journalistes la posent beaucoup, c'est pourquoi il y a si peu de femmes, en tout cas à l'origine, dans ce conseil scientifique. Et on va dire que la réponse a été plutôt tu comprends, c'était l'urgence. Voilà. Donc c'est un peu, mais c'est comme à l'image de toute cette pandémie, c'est-à-dire qu'en fait, l'urgence fait en sorte que tous les piliers, tout ce qui est ce qu'on pense être des fondements importants de notre société, qu'on pense qu'on a acquis, tombent. Tous les filtres tombent, tous les piliers tombent, etc. Et donc dans l'urgence, ce qui veut dire qu'on n'est pas capable de trouver des femmes expertes au même nombre que les hommes, voilà. C'est ce que ça dit de la société, c'est que c'est ça. Et d'ailleurs, dans le nouveau conseil scientifique, où il y a des nouveaux membres, vous avez vu qu'il y a une parité parfaite dans ceux qui sont entrés. Donc, à froid, on peut. À chaud, quand c'est la crise, on ne peut plus. Et donc, on en oublie toutes les bases fondamentales. Quand je suis devenue professeure, j'ai eu droit à un espèce de traitement de faveur. Bon, qui n'est pas forcément lié qu'au fait que je sois une femme, hein, qui est aussi peut-être lié au fait que je sois un enfant d'immigré, que voilà, comme ça, on se dit, elle a une tête, c'est trop bizarre pour être normale. Enfin, c'est ça, hein, l'image qu'on me renvoie en permanence, mais j'y avais jamais vraiment pensé. Et puis, donc je passe tous les concours, mon CV, il est très bien, voilà, il n'y a rien à envier à n'importe quel... autre personne, et donc j'ai droit à une commission spéciale, en fait, qui n'existe même pas dans la loi, en fait. J'aurais pu même me plaindre de ça. Mais à ce moment-là, évidemment, j'ai pas cette idée-là. Donc je vais à cette commission, il y a des hommes en face de moi. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très précises, et il y a un certain nombre de choses que j'ai complètement occultées. Donc je sais qu'il y a trois hommes, mais je me souviens que de deux, parce que probablement ils ont beaucoup parlé, et pas des autres. Donc, et commandé par le doyen de l'époque. Et quand j'arrive dans la salle, alors c'est une entreprise un peu de démolition, hein, faut bien le dire. Et donc j'y vais un peu comme ça, parce qu'on m'avait expliqué, parce qu'on m'avait dit que c'était un peu ça, c'était un peu un test, etc. Donc on m'assène que je suis indigne, voilà, de l'université, qui est à l'époque l'université de Paris 7. Et avec plein d'adjectifs qui vont se suivre, j'ai longtemps... mémoriser la séquence, mais je m'en souviens plus parce que j'ai décidé qu'il fallait passer à ça, mais je sais qu'il y avait caractériel, enfin toutes des choses qu'on dit aux femmes, c'est-à-dire un homme c'est toujours charismatique, vous savez, mais une femme c'est toujours caractériel. Honnêtement, je suis sortie de la démolie, pour la première fois de ma vie je réalise que effectivement être une femme est difficile, alors que je m'étais jamais autorisée à me l'avouer, en fait, et ça va durer très longtemps pour que j'arrive à dépasser ça, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis, pendant la crise, j'ai vécu quelque chose qui est totalement différent. j'avais jamais vécu non plus avant, en tout cas je n'ai pas le souvenir, c'est que je me suis fait insulter dans mon milieu professionnel. Étonnamment, alors que j'ai quand même beaucoup lu, que c'est des questions qui m'intéressent, que j'ai un niveau universitaire qui est très important et qu'on pense toujours que finalement c'est les gens les plus faibles ou les plus démunis qui subissent. C'est totalement faux, ça je ne le sais pas encore, et je vais pas savoir quoi faire. Et alors c'est pareil, hein, c'est la pandémie, la crise, et donc j'en parle. Je ne sais pas si cette conversation a été entendue, donc c'est ma parole contre la sienne. Donc c'est compliqué, donc quand on me dit bah, il est fatigué, bien sûr c'est un homme hein, qui m'insulte, il est fatigué, c'est la crise, tu comprends, tu peux rien dire parce que tu vas pas ajouter du problème au problème, etc. Et donc je me tais. Et j'ai vu des choses bien pires que les insultes hein, dans cette crise pandémique. Et ce que je sais pas à ce moment-là, c'est qu'au fond, j'ai donné à cette personne les armes pour continuer.
Les métiers du soin sont en très grande majorité composés par des femmes. Infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, auxiliaires de vie. Or, c'est précisément cette féminisation qui justifierait le manque de considération sociale et économique dont ces métiers souffrent, à l'heure même où une pandémie mondiale crie leur absolue nécessité.
Dans mon service, forcément, il y a des femmes médecins. Beaucoup même, puisque c'est féminin, c'est féminisé, même la réanimation est en train de se féminiser, mais à des postes, encore une fois, qui ne sont pas des postes de professeurs. Donc comme j'avais des interviews, notamment sur la femme, j'ai un peu discuté avec certaines d'entre elles. Et en fait, je me revois, elles, il y a 20 ans, quoi. Voilà. Donc, les choses n'ont pas forcément changé, et ce qu'elles m'ont répondu, c'est... Mais jamais de la vie, il faut favoriser les femmes, c'est un faux problème. Moi, je veux pas du tout qu'on me favorise parce que je suis une femme. Enfin, voilà, exactement le même discours que j'aurais tenu il y a 20 ans. Donc, en fait, je crois que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Je pense que même les choses, on va le découvrir, mais se sont aggravées. Voilà. Que si moi j'arrive à me faire insulter dans mon propre service, ça veut dire que tout est permis et qu'au fond, le pouvoir. Puisqu'il s'agit bien de pouvoir, va revenir fortement aux hommes. On a perdu du terrain et je ne sais pas très bien combien de temps il va falloir qu'on regagne ce terrain. C'est sûr que ce n'est pas l'année de la pandémie ou les 2 ans de la pandémie, c'est beaucoup plus grave que ça. Et d'ailleurs, vous l'avez dit au départ, pour un certain nombre de sujets économiques, sociaux, etc., le temps perdu a été calculé, hein, c'est plus d'une génération. J'avais posé cette question pendant la crise. Un professeur qui s'occupe donc de nommer les autres professeurs et qui m'avait dit que pour qu'on ait la parité dans les professeurs de réanimation, il faudrait 2 générations, et bien il faut bien donc je ne le verrai pas. Le Ségur, c'est surtout ces infirmières que ça concerne. Je ne suis pas sûre que de ce que j'ai entendu, les 80 fois 2 euros changent les choses. C'est quand même un apport important puisque ça correspond à un pourcentage de leur salaire qui est quand même relativement important. Donc évidemment, elles ne vont pas cracher dessus, mais c'est pas tellement ça qu'elles attendaient en fait. Hein. C'est la considération, c'est bien sûr financier, évidemment, et en particulier pour les aides-soignantes, par exemple, qui sont parfois extrêmement, extrêmement pauvres, extrêmement démunies, les infirmières, mais c'est autre chose, c'est beaucoup plus global. La considération, c'est pas que de l'argent. Et je crois qu'on résolvra pas le problème juste avec le Ségur. Je pense que c'est une prise en compte qui est bien plus large. Le mal qu'on a fait à ces femmes à l'hôpital, il est considérable. Voilà. Et j'espère, et c'est pour ça que je dis que la société doit se pencher sur ce problème et doit réfléchir dès maintenant à ce qu'on souhaite. Parce qu'on sera tous des gens vulnérables ou malades. Et qu'est-ce qu'on veut? Et comment on les considère? Et donc comment on les rémunère? Et comment on rend ces métiers... Là, attractif. Mais oui, il y a une vraie question, mais c'est une question de société et que pour l'instant on a occultée, mais c'est une vraie réalité. C'est quel soignant on veut dans 20, 30 ans, est-ce qu'il y en aura suffisamment? Moi, je pense que non. Tant qu'on ne reconstruira pas la société en mettant à la fois des hommes et des femmes pour penser à l'après, eh bien, on pensera à l'après qu'en tant qu'homme. Voilà. C'est qu'il faut mettre des hommes et des femmes pour que des femmes pensent à ces problématiques de femmes. C'est malheureux à dire, parce qu'au fond, pourquoi des hommes ne pourraient pas penser aux problématiques des femmes? C'est incroyable. Enfin, je pensais qu'on était au XXe siècle. XXIe siècle, mais en fait, on ne l'est pas. Donc, tant qu'on n'essaiera pas de construire la société d'après en mettant et des hommes et des femmes, je pense qu'on n'arrivera qu'à des solutions pour les hommes. C'est aussi simple que ça. C'est terrible, mais c'est aussi simple que ça. Et vraiment, ça me fait extrêmement du mal, parce que cette pandémie, qui est une crise humanitaire sans précédent, aura dit de la société, mais c'est... Alors que je pensais que quand même on vivait dans une société qui était meilleure que ça. Ça fait froid dans le dos, quoi.
La pandémie a révélé non pas seulement la vulnérabilité des métiers féminisés du soin, mais la vulnérabilité de l'ensemble de la société, y compris des plus favorisés, dans leur dépendance quotidienne au service des autres, et notamment des femmes soignantes. En cela, la crise ouvre nécessairement une réflexion sur les métiers du care, du prendre soin, si l'on devait traduire. Le care est défini par la philosophe américaine Joan Tronto comme, je cite, « une espèce d'activité qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir en état, pour préserver et pour réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. » Sandra Logier et Najat Vallaud-Belkacem ont publié un livre l'été dernier qui s'intitule « La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise ». Elles mettent en perspective les enjeux quasi-anthropologiques soulevés derrière le traitement qu'une société réserve à ses soignantes et comment cette prise de conscience peut nous aider à réorganiser de façon générale les activités humaines plus en prise avec ce qui compte réellement.
Le care, de toute façon, est une réflexion féministe, dès le départ.
Sandra Logier.
Le care, bien sûr, c'est au départ quelque chose d'un peu général. C'est l'attention à autrui, c'est le fait de s'intéresser à autrui, de s'occuper d'autrui. Donc, c'est pas genré de façon complètement essentielle au départ. Tout le monde peut s'occuper d'autres personnes, bien entendu, mais en réalité, les professions de care, donc le travail de care, est quelque chose qui est dévolu aux femmes. Donc 80% des aides-soignantes, 67% des infirmières, enfin, c'est vraiment des métiers qui sont entièrement ou presque féminisée. Donc, en réalité, le care est vraiment une réflexion féministe parce qu'elle étudie le fait qu'un certain nombre d'activités dans le monde humain sont déconsidérées parce qu'elles ont été historiquement dévolues aux femmes. Mais ça dépasse en effet le domaine des femmes puisque toutes les catégories défavorisées, donc pas seulement les femmes, mais aussi, bien sûr, les personnes racisées, les personnes pauvres, vont, par définition, être impliquées aussi dans cette dévalorisation. Je crois que pour ces métiers du care, pour qu'ils aient un statut et une attractivité, il faut vraiment, prioritairement, réviser leur statut. On a quand même les auxiliaires de vie sociale, c'est des personnes qui gagnent entre 600 et 800 euros par mois avec 50 heures de travail par semaine. C'est quand même ça qui est en cause vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on considère que c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux et de plus important, s'occuper de vos vieux parents, de vos enfants, etc. Et en même temps, c'est vraiment des personnes qui sont très maltraitées. Et là, on est vraiment dans une situation à la fois désastreuse et très paradoxale, puisque on a vraiment besoin, on l'a dit, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'aides-soignantes, on a besoin d'auxiliaires de vie sociale avec toutes les personnes âgées qui veulent rester chez elles. Et en fait, on est en train de détruire ces professions. Donc il y a vraiment une sorte de convergence grâce au concept de care, toutes ces entités qui sont exploitées et négligées. Par ailleurs, je crois que le care permet aussi de comprendre, alors d'une part, cette situation faite aux femmes, mais vraiment le fait qu'on a aussi ce cumul des inégalités et que, comme par hasard, effectivement, les personnes qui vont être personnel de care, qui sont prétendument indispensables, eh bien, ce seront des personnes qui seront des femmes, qui sont effectivement très mal payées, donc avec la pauvreté, qui subissent des violences souvent, qui sont aussi des personnes qui sont d'origine étrangère. Hein. Et donc, on a vraiment aussi une illustration en direct, grâce au care et grâce à la situation actuelle, du concept d'intersectionnalité.
La revalorisation sociale, économique et statutaire des métiers du soin participe d'une politique globale qui cherche à répondre à la fois à la fragilité de ces professions, mais aussi à la fragilité d'une société qui souffre de sa difficulté à se soigner. Une société qui vieillit, une société malade de ses modes d'alimentation, de consommation, de son environnement, dans laquelle les soignantes ont vocation à composer les fonctions les plus essentielles pour des décennies.
Au moment du premier confinement, qu'est-ce qui est apparu très clairement ?
Najat Vallaud-Belkacem.
L'absolue nécessité que nous avons d'avoir des personnels soignants, d'avoir tous ces métiers qui s'exposaient au fond pour nous, hein, au-delà des soignants, c'est les caissières, c'est les éboueurs, c'est les métiers du lien, les métiers qui permettent finalement à la vie, au sens biologique comme au sens social, tout simplement d'être. Et ces métiers-là, il nous est apparu très fort et collectivement que c'était les plus déconsidérés des métiers, en réalité les plus mal payés, ceux dont on parlait le moins, dont on regardait le moins les conditions de travail au quotidien, etc. Deuxièmement, que c'était des métiers très féminisés pour l'essentiel. Alors bien sûr, vous allez me dire les éboueurs moins, mais enfin, si on prend l'ensemble de ces métiers dits du care, pour l'essentiel, à 70-80%, ce sont des femmes. Et donc, finalement, on les a applaudis, beaucoup aux fenêtres le soir, mais en se disant, dans l'après-Covid, la société qu'on doit construire, ça doit être une société qui revalorise, qui revoit la hiérarchie des valeurs inversées qui est la nôtre, ces métiers-là. Et une société, normalement, qui, en particulier, donne une place meilleure qu'elle n'est visiblement aujourd'hui aux femmes, puisque ces femmes qui nous sont si précieuses dans ces métiers, encore une fois, c'est celles qu'on n'entend pas dans la gestion, le leadership, le commentaire médiatique de la crise. Il y a eu certains Ségur de la santé qui a un peu réévalué à coup de primes un certain nombre de métiers. Ça n'a pas été exhaustif. Il y a beaucoup de salariés de ce secteur qui considèrent qu'ils n'ont pas été entendus, que ça n'est pas allé assez loin. Mais au-delà du Ségur de la santé, se pose la question de tous les métiers qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas des métiers de l'hôpital, qui sont du médico-social, qui sont du care plus, au sens plus large, les caissières que j'évoquais tout à l'heure. Et non seulement il n'y a pas eu de réponse apportée, mais en plus on a même vu des phénomènes, par exemple dans la grande distribution, où on a supprimé un nombre d'emplois considérables juste en sortant du premier confinement. Et ce sont ces personnes-là, en fait, qu'on avait applaudies, qui ont été les premières touchées. Donc je dirais que malheureusement, de nos bonnes résolutions d'il y a un an, il ne reste pas grand-chose. Et pire encore, qu'il y a une forme de lassitude qui s'est emparée de notre collectif, qui fait qu'en réalité, beaucoup de gens n'ont même plus envie de penser le monde d'après. Notre constat de septembre dernier demeure. Et à nouveau, on veut dire qu'une société dans laquelle, finalement, dès qu'il y a un dysfonctionnement, dès qu'il y a une crise, eh bien, l'immense majorité des femmes en sont les premières victimes, se vulnérabilisent, se récupèrent la charge mentale du fait de travailler à domicile, sont invisibilisées, oubliées, est une société malade. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est en faire une vraie priorité politique. Il faudrait que ce soit transversal à l'ensemble des échelons du pouvoir politique comme réflexion, et il faudrait qu'une famille politique en particulier s'en saisisse à fond, et en effet articule ce que ça signifie métier par métier. Donc s'agissant du care, c'est pour ça que la notion est si séduisante pour nous. C'est qu'en réalité, certes, on l'aborde par le prisme des femmes pour toutes les raisons qu'on vient de se dire, mais en fait, elle permet d'ouvrir sur tellement d'autres sujets et sur, en réalité, une conception de ce qu'on a à faire ensemble dans cette société. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Pourquoi on est là ? Est-ce qu'on est là pour que quelques individus s'enrichissent le plus possible ? On a vu que quelques milliardaires avaient gagné 13 milliards de dollars pendant le premier confinement. Bon, est-ce qu'on est vraiment là pour ça, pendant que d'autres tombent dans l'extrême pauvreté ? 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté du fait du Covid-19. Ou est-ce qu'on est là pour tendre vers un bien-être collectif qui profite finalement à chacun d'entre nous? Or, la grande idée du care et du soin, finalement, d'une politique, d'une idéologie du soin, c'est que l'on ne fasse preuve de négligence à l'égard de personne et de rien. Rien, c'est-à-dire y compris les animaux, notre environnement, la planète. Voilà, moi je pense que le jour où on aura cette société du care et cette politique du care et qu'on remettra l'attention aux autres, l'attention à son environnement, on sera sur le chemin d'en finir avec les inégalités extrêmes, d'en finir avec la prédation extrême, d'en finir avec la destruction extrême de nos environnements.
Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes. Écrit et conçu par Mao Chaudoué-Delmas. Interview préparée et réalisée par Mao Chaudoué-Delmas et Luna Guépadouan. Réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias.
Mammam capire, ella mossa mammellam. Capiremo sa mammam capire, inspire la mossa mammellam. Capiremo sa mammam capire. Somos mujeres en acción, tenemos mucho valor.
تقاسم خيراتها.
Que le hagas bro.
Pedimos buenas razones de marcha.
Acceso a la tierra, la propiedad, la ciudadanía y la alfabetización.
Kibo, Biodo, Heiwa, Minchushu, Giomotomete.
Pourquoi appeler la misère, corruption, impunité, à violence sous femme?
Pedimos buenas razones de marcha.
Agua tu ducha o inuesti.
Stop sexual trafficking.
Pour inclure les femmes dans le processus de paix.
Pedimos buenas razones de marcha.
Igualdade na lei da família e violência doméstica é crime.
Preservación de las culturas milenarias y no más abuso de los recursos naturales.
Nuclear Free Pacific, Fair Trade.
Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes par Mao Chaudoué Delmas et Luna Guépadoan. Ce podcast documente en 9 épisodes ce qui se joue autour des femmes avec la pandémie, elles qui ont été à la fois les plus exposées, les plus actives et les plus ignorées depuis un an. Épisode 9. Femmes engagées. En avril 2020, un article du magazine Forbes affirmait que les pays dirigés par des femmes, Islande, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Finlande, Danemark, ont mieux fait face à la première vague de la pandémie. Ces femmes auraient privilégié la rapidité, la transparence et l'empathie au leadership testostéroné et à la rhétorique guerrière des hommes chefs d'État. Si la réalité ne saurait être aussi caricaturale, il est logique que les compétences des femmes soient généralement plus grandes en matière de santé ou d'affaires sociales, puisque ce sont les postes qui leur sont habituellement fléchés depuis le début de leur carrière politique. Il est aussi logique que les femmes arrivées au sommet des instances de décision soient particulièrement chevronnées, au bout d'années d'un parcours semé d'embûches dans le milieu politique, où elles ont dû faire deux fois plus leurs preuves et ne rien laisser au hasard. Cette année a été marquée par l'émergence de grandes figures politiques féminines, toutes nouvelles activistes comme Alexandria Ocasio-Cortez, mais aussi des femmes nommées à la tête de grandes institutions et qui ont fait preuve d'une réactivité et d'un pragmatisme inédit, comme Christine Lagarde à la BCE, qui a mis en place un grand plan de soutien aux États, ou Ursula von der Leyen à la Commission européenne, qui a suspendu les règles de discipline budgétaire. Ce sont des signaux forts, de nécessaire ouverture du champ politique aux femmes, et à toutes les catégories sociales peu représentées dans l'espace du pouvoir. Nous sommes allés à la rencontre de Lorraine Lolo, très jeune figure de ce renouveau politique possible.
De base, comment s'est né mon engagement ? Je pense qu'une des choses qui m'a toujours révoltée, choquée depuis que je suis petite, c'est vraiment le racisme, le colorisme aussi, les inégalités, la pauvreté. Ça, c'est des choses qui m'ont choquée dès petite. Donc, dès petite, ça me choquait et du coup, j'avais besoin de trouver des réponses. Donc, je lisais beaucoup par rapport à ça, notamment dès que je suis arrivée au collège avec les blogs, etc., Tumblr à l'époque, et les premiers blogs d'afroféministes qui sont arrivés. Même si à la base, je lisais plus en anglais parce qu'on avait plus de ressources. Donc, c'est né un petit peu comme ça. Mais en fait, l'élément vraiment déclencheur de tout ça, c'est qu'en 2014, j'ai eu un accident. J'ai une opération du dos qui s'est très, très mal passée et qui m'a paralysée des deux jambes à la base. Donc, du coup, en fait, à la suite de cet accident, où j'ai failli mourir, littéralement, je me suis dit, si j'étais morte, j'aurais fait quoi pour améliorer la vie autour de moi, améliorer la vie des autres autour de moi. Et c'est là, que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je pouvais faire, ce qui me tenait à cœur, etc. Et je me suis dit, je vais commencer à m'engager pour les jeunes autour de moi, de mon lycée, de mon quartier, contre le racisme, etc.
Et du coup, bah, en fait, ça a commencé. Bah, je suis sortie de l'hôpital, je suis revenue dans mon lycée de, d'origine. Parce qu'en fait, j'étais hospitalisée dans le 16e. Et du coup, je passe de Clichy-sous-Bois, 93, Fosse, 95, enfin Val d'Oise, tout ça, à 16e arrondissement de Paris. Et du coup, bah, quand j'étais hospitalisée là-bas, en fait, je me suis rendu compte aussi du décalage entre les jeunes parisiens de beaux quartiers et nous, en fait, les jeunes de banlieue. Et enfin, un truc qui m'a toujours choquée, c'est qu'ils bah, connaissaient plein de monde ministre, ils avaient visité l'Assemblée nationale, etc. Ils connaissaient plein de choses en politique. Et moi, en fait, pas du tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre parce que je me suis toujours intéressée à des trucs qui me touchaient directement, donc le racisme, le féminisme et tout, enfin, la lutte antiraciste, etc. Mais je ne m'étais jamais intéressée à la politique politicienne, comme on dit. Et du coup, bah, j'ai gardé ce truc en tête. Et donc, quand je suis revenue dans mon lycée, j'ai commencé par m'engager donc, au conseil de vie lycéenne. Je me rappelle, une de mes premières actions, c'était une journée interculturelle pour parler justement bah, des préjugés qu'on a sur, bah, sur les pays d'origine, etc. Et avoir une journée voilà, pour parler de ça et visibiliser d'autres cultures que la culture française et même d'autres cultures régionales en France qu'en Île-de-France.
Du haut de ses 23 ans, Lorraine Lolo cumule les engagements politiques. Journaliste, élue à Fosse, elle est aussi fondatrice de la Cité des Chances, une association née pour promouvoir l'engagement citoyen des jeunes de banlieue.
J'ai commencé un service civique à la mairie de ma ville. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, à la base, je me suis pas forcément. Enfin, j'hésitais entre droit, sciences politiques, etc. Et le fait de faire un service civique à la mairie de ma ville, donc de faire des projets, etc., de faire des actions pour les habitants et les habitantes, bah, je me suis dit, en fait, bah, je vais faire ça toute ma vie, en fait. Et du coup, je me suis réorientée en sciences politiques. Et dès que j'ai fini mon service civique, j'ai été conseillère régionale des jeunes d'Île-de-France. Et après, une chose en a amené une autre. J'ai créé Cité des Chances. Je me suis retrouvée aussi élue. Et voilà, mais c'est un peu comme ça que c'est né. Surtout quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, au sens gouvernement, parlement, etc. Et que j'en parlais, déjà, les gens ne me prenaient pas du tout au sérieux. Ils se disaient, mais en fait, déjà, t'es jeune, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, t'es une femme, t'es noire, encore pire. Donc, ouais, je trouve que ça a été vraiment un frein dans la légitimité qu'on m'accordait dans ma parole, en fait. Donc, moi, j'ai commencé très tôt à aller aux réunions publiques. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique, surtout à la politique locale. Mais il y a énormément de consultations, de réunions publiques. Et moi, j'étais curieuse, donc je poussais les portes. Et c'était très drôle de se retrouver, en fait, dans une salle où t'as quasiment que des personnes âgées, souvent. T'as quasiment que des blancs. T'as très peu de femmes, généralement, aussi. Donc, du coup, t'arrives un peu dans ces espaces-là. Et donc, c'est des gens, en plus, qui souvent se connaissent depuis des années. Donc, toi, t'arrives et t'es là, t'as des choses à te dire, forcément, parce que c'est des trucs qui te concernent. Des fois, c'est les transports. Des fois, c'est autre chose. Et du coup, ils sont un peu... Ok, mais qui c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, au début, j'ai arrivé super, super vénère, etc., avec plein de revendications. Et après, en fait, le sentiment qu'on m'a envoyé, c'est le fait que je suis pas légitime, en fait. Nous, les jeunes de banlieue, les femmes, etc., des catégories beaucoup plus invisibilisées, personne ne nous dit ça, en fait. Et si on ne te le dit pas, ce n'est pas un truc qui est inné. Et nous, avec ces gens, on a vraiment eu envie de dire ça aux jeunes, en fait, auprès desquels on agit, de dire vous êtes légitime et vous êtes capable. Donc nous, en fait, notre but, c'est que nos actions en faveur des jeunes, en faveur des lycéens, ce soit fait dans toutes les villes de France. C'est la finalité. Maintenant, par souci d'équité, nous, on veut commencer par les banlieues, par les quartiers populaires. Mais on a déjà eu cette démarche, en fait, où de base, nous, on est né à Fosse, dans l'est du Val d'Oise, pas très loin de Roissy, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on s'est petit à petit développé partout en Île-de-France. Donc en fait, c'est tout bêtement, on a mis une vidéo sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qu'on faisait. On a reçu des messages de partout, mais de partout en France et même de d'autres continents qui nous ont dit « mais c'est trop bien ce que vous faites et on pense que nous, on a besoin de ce que vous faites là où on est, nous aussi, en fait ». nous, on dit démocratiser la démocratie parce que déjà, on la vulgarise, c'est-à-dire qu'on explique comment ça fonctionne. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, on nous demande de voter pour des trucs. Il y a plein de gens qui ne savent pas, en fait, finalement, le maire ou la maire, c'est quoi leur pouvoir. Il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi ça sert la région. Et il y a ce côté, en fait, aussi de rendre accessible, c'est-à-dire que, bah, en fait, la démocratie, normalement, c'est le pouvoir au peuple. Et ce n'est pas une partie du peuple, et encore moins une partie privilégiée du peuple. Donc, du coup, pour moi, il faudrait qu'on ait des représentants et représentants qui ressemblent à la société dans son ensemble. Donc pour moi, c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de femmes, c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de racisés, c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de gens qui viennent de banlieue. En luttant à notre échelle, etc., on se rend vite compte en fait des rapports de pouvoir, on se rend vite compte des prérogatives de l'un et de l'autre, et on se rend vite compte en fait des liens entre toutes ces luttes. On se rend vite compte, même à ma propre échelle, dans ma propre vie, je me rends compte que finalement, je ne peux pas dissocier le fait d'être une femme, d'être noire, de vivre en banlieue, d'avoir des parents pas aisés du tout. Tout ça, en fait, c'est lié. Moi, je pense que je suis vraiment au début de mon engagement, même politique ou associatif. Mais je trouve que c'est un pas supplémentaire. Déjà, depuis que je suis élue, surtout que je suis beaucoup active sur les réseaux sociaux, je reçois chaque semaine « Est-ce que tu peux signer cette tribune-là »« Est-ce que tu peux relayer ceci »« Est-ce que tu peux venir à tel événement »« Est-ce que tu peux parler de ça ?» Ou des gens de ma copine qui vont me contacter en disant « j'ai un problème par rapport à ça, est-ce que tu penses que la mairie peut m'aider ?» etc. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un pas supplémentaire, même dans ma façon d'aider les gens. Parce que malheureusement en France on est aussi élu pour être des représentants entre guillemets, représentantes, et du coup ma voix elle est plus entendue en tant qu'élu que je l'étais avant en tant que citoyenne, même si on s'intéresse aussi à moi en tant que dirigeante associative aussi parfois. Donc oui, je trouve que c'est un pas supplémentaire, mais c'est que le début d'une longue série de pas, j'espère.
La crise du coronavirus n'a pas seulement été une crise sanitaire, écologique et économique. Elle cristallise des années de remise en cause du fonctionnement démocratique et de notre modèle politique. Elle éclaire, de façon brutale, l'incapacité de nos dirigeants à répondre aux injustices sociales révélées par la pandémie, précisément parce que la pandémie et ses injustices sont vécues comme le fruit d'une série de mauvaises décisions politiques antérieures. La crise nous invite à repenser le modèle néolibéral que la plupart de nos dirigeants continuent d'incarner. Un modèle ultra-concurrentiel qui organise les rapports de domination entre puissants et vulnérables, entre les êtres vivants, entre les hommes et les femmes. Et si l'accès réel des femmes au pouvoir était la promesse d'un changement radical de notre modèle politique ? Sandrine Rousseau, économiste universitaire et femme politique, est convaincue que la crise est un point de non-retour pour les femmes, et signe leur nécessaire prise de pouvoir.
J'ai l'impression qu'il y a deux faces dans cette histoire. Il y a une face sombre qui est de se dire que les femmes ont été bien, bien sollicitées dans cette crise. Le corps des femmes a été très sollicité, le temps de travail des femmes, le travail gratuit des femmes a été très sollicité dans cette crise. On a vu notamment avec les masques, et ce truc incroyable, on demandait de faire des masques gratuitement. Et la parole des femmes a été totalement invisibilisée quand il s'agit de parler d'expertise, de science autour de ce qui se passait. Donc ça, c'est la face sombre. Et évidemment, aussi, à l'intérieur des foyers, il s'est passé le pire. C'est-à-dire qu'il s'est passé une augmentation des violences, il s'est passé une augmentation de la charge mentale et du non-partage des tâches. Mais il y a aussi une face positive à cette affaire, comme à chaque fois qu'on est en crise. Et la face positive, me semble-t-il, est que les femmes ont gagné en pouvoir. C'est-à-dire que si elles avaient fait grève là, pendant le Covid, plus rien ne fonctionnait. Plus rien ne fonctionnait. Que ce soit les personnes qui tiennent les caisses des supermarchés ou les aides-soignantes ou les infirmières, plus rien ne fonctionnait. Et moi, je veux voir cette face-là. C'est-à-dire je veux que l'on voit le pouvoir des femmes aujourd'hui. et que l'on voit que la société tient grâce à ce pouvoir des femmes et qu'au lieu de subir cette situation, eh bien qu'on en fasse un objet de pouvoir et de dire bah, c'est nous qui tenons la société, c'est à nous maintenant de prendre aussi part aux décisions. C'est à nous maintenant d'aller, alors évidemment jusqu'au plus haut de l'État, mais d'aller dans les endroits où se décident les choses, parce que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas faire sans nous, et il n'est pas question que vous continuiez à faire semblant que nous n'existons pas. Et je pense que quelque chose est en train de se passer de ce point de vue-là. Je pense que ça n'est pas encore... Complètement visible, mais je pense que quelque chose de très profond est en train de se passer autour de ça, du fait que nous ne voulons plus être dans cette situation. Et quelque part, la crise du Covid a révélé ça aussi. Je crois que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui est un moment absolument crucial qui relève, à mon sens, presque d'un choix de civilisation et d'une bifurcation de notre modèle de civilisation. On n'en vit pas souvent et on n'a pas la chance forcément non plus d'être dans ces moments-là. Mais je crois que c'est ce que l'on est en train de vivre. Parce que partout, si vous écoutez la société bruisser, ce que l'on entend, c'est que les personnes ne veulent plus être dominées. C'est le cas de Black Lives Matter. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de violence policière, on ne veut plus être dominé. C'est le cas des Gilets jaunes qui disaient « mais nous vivons la précarité, nous ne voulons plus être dominés par le système ». C'est le cas aussi des marches du climat, des jeunes qui se sont mobilisés tous les vendredis en disant « mais vous, les anciens, qui avez la responsabilité de ce dérèglement climatique, vous avez aussi la responsabilité de nous en servir ». C'est ce que disait Greta Thunberg d'une manière extrêmement claire. Et évidemment, c'est ce que dit le mouvement des femmes. Et c'est ce que disent les mouvements anti-racistes. C'est ce que disent aussi les mouvements de lutte contre la discrimination dans le handicap, avec notamment le mouvement autour de l'allocation sur le handicap. Donc en fait, si on entend la société, là, ce dont elle bruisse, c'est d'un cri, c'est d'un cœur qui dit exactement la même chose. C'est « nous ne voulons plus être dominés ». Nous ne le voulons plus, nous ne l'acceptons plus et nous nous organisons pour que cela ne soit pas le cas. Et ça, c'est un mouvement extrêmement puissant. Et c'est une révolution douce, et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est finalement ça la question qui va être posée à la société lors de la présidentielle. C'est que voulez-vous ? Est-ce que vous voulez un modèle conservateur fondé sur l'ordre de domination, sur la haine aussi de l'autre ? Ou est-ce que la société est prête à entendre cette volonté de respiration et cette volonté d'espoir ? Eh bien, moi, je mise évidemment sur le second camp. J'espère même jouer un rôle important là-dedans. Et je pense réellement que là, on est dans un moment... vous savez, les icebergs, quand ils basculent, on ne les voit pas forcément basculer. Et je pense que là, on est à ce moment-là où l'iceberg se bascule et où l'autre face arrive. Et l'autre face, c'est une face, en fait, d'égalité.
Sandrine Rousseau est candidate officielle à la primaire écologiste pour l'élection présidentielle de 2022. Elle incarne le renouveau politique, à la fois dans son corps, en tant que femme, mais aussi dans sa vision, en tant que figure de l'écoféminisme.
L'écoféminisme, ça consiste à interroger l'ensemble des dominations et à se dire qu'on doit revoir notre manière d'appréhender l'altérité. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que nous ne sommes pas pareils que nous sommes supérieurs ou inférieurs. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même sexe que nous sommes supérieurs ou inférieurs. Ce n'est pas parce que c'est un animal et nous, humains, que nous sommes supérieurs ou inférieurs. C'est-à-dire qu'en fait, la question se pose partout de comment on peut organiser le respect et comment les limites des uns doivent s'appliquer aux autres. Et en l'occurrence, comment les limites de la nature s'appliquent à l'humanité. Et comment on fait en sorte que chacun et chaque élément de ce système soit respecté à l'endroit où il est. C'est aussi une manière de prendre soin et d'avoir une destinée commune, d'accepter que la destinée de la nature, la destinée des femmes, la destinée des hommes sont liées. Il n'y a pas une sous-catégorie qui va s'en sortir quand tout le reste s'effondre. C'est une forme d'interaction de cet ensemble. Et que dès lors que vous détruisez un écosystème, eh bien vous mettez en danger les humains qui vivent à proximité ou plus loin de cet écosystème. Et c'est ça l'écoféminisme, c'est de dire qu'à partir du moment où vous êtes violent sur le corps des femmes, eh bien vous êtes aussi violent sur la nature. À partir du moment où vous ne respectez pas l'autre dans son altérité, vous ne respectez pas davantage les équilibres naturels. Dès lors que vous exercez votre jouissance personnelle au détriment d'autrui dans les violences sexuelles, vous exercez la même jouissance personnelle au détriment de la nature. Ma présence même, mon corps même dans cette élection, ma parole, et encore une fois, le fait qu'une femme politique puisse aller jusque-là, changera forcément déjà des choses dans l'élection. Et si j'arrive à la présidence de la République, quand j'arrive à la présidence de la République, ma présence dans ces ors de la République, où rien n'est prévu pour les femmes, rien, va forcément changer le rapport au pouvoir et va forcément changer la place des femmes dans l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça que l'on doit faire. Et il ne faut pas négliger l'importance de cette chose-là parce que lorsqu'une femme arrivera à la présidence, et une femme évidemment issue du camp du progrès, et qui revendique son caractère féministe et qui revendique son militantisme féministe, son militantisme de longue date contre les violences, etc., quand cette femme-là arrivera au pouvoir, alors, je pense que le château de cartes qui a été construit autour des violences va de lui-même tomber. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas grand-chose à faire, il y aura peut-être juste une petite pichenette à donner. Mais de lui-même, il tombera. Parce que finalement, ce sera un signal extrêmement fort donné à tout le monde que ce moment-là est terminé. Le moment de l'impunité des violences, le moment où les violences étaient légitimées dans un système social qui organisait l'aveuglement, est terminé. Et ça, ce sera extrêmement fort. Et là, je pense qu'on atteindra vraiment une forme d'aboutissement d'une nouvelle étape de l'émancipation des femmes. Et après, il faudra construire les suivantes.
C'était le dernier épisode du podcast Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, écrit et conçu par Mao Chodoé Delmas, interview par Mao Chodoé Delmas et Luna Guépadohan, réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias. Je tiens à remercier très fort toutes ces femmes qui nous ont prêté leur voix, nous ont offert leurs témoignages, leur analyse et leur combat. Colline Charpentier, Céline Bessière et Sybille Golac pour parler des femmes confinées, Magali Bragard, toutes les bénévoles de l'association Mamama et Cécile Duflo pour parler des femmes appauvries, Brigitte Chabert et Zoé Royot pour parler des femmes violentées, Jackie Tadeoni et Maud Simonet pour parler des femmes exploitées, Lila Bouadma, Najat Vallaud-Belkacem et Sandra Logier pour parler des femmes soignantes, Marine Perrin et Lorraine Bastide pour parler des femmes ignorées, Laura Paoli Pandolfi et Anne-Cécile Meyfer pour parler des femmes militantes, Déborah Loy et Marie-Pierre Rixin pour parler des femmes entrepreneuses, Lorraine Lolo et Sandrine Rousseau pour parler des femmes engagées. Je voudrais aussi dire merci à la Fondation des Femmes, en particulier à sa présidente Anne-Cécile Meyfer et son équipe, Christine Muller, Clémence Garnier-Just, Nina Mériguet, Jessica Ohayon, pour leur confiance et leur soutien. Je tiens également à remercier toutes les bénévoles de la Fondation des Femmes pour les heures de scriptage qu'elles ont fournies, Carole Pirotet, Claire Bianzina, Lorraine Henry, Katia Samrani, Gaëlle Orefici, Emmanuel Mayanda Bomba, Marie et Nora Martin, Valentine Ulgu-Servant et Isabelle Roth. Merci à Anton Stepourginski, Virgile Tron, Chloé Sdez, Alix Delmas et Ruben Cohen pour leur précieuse écoute. Merci enfin à Thomas Loupias et Luna Guépadouan, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour.